Cette semaine au balado, l'Argentine se rapproche des États-Unis, violation des conventions diplomatiques à travers le monde, déclin généralisé du gouvernement Trudeau, manifestation des cultivateurs du Québec, sans oublier le grand enjeu de la semaine. Tout cela et bien plus dans votre libre podcast. Bonjour et bienvenue à votre libre podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine Libre Média. Je suis Francis Denis, en compagnie de mon collègue et rédacteur en chef à Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour.
Bonjour Francis.
Jérôme, comment s'est passée ta semaine? Là, on a pris l'habitude de se renseigner sur ce qui se passe un peu dans ta vie, puisque tu voyages beaucoup, passage du Mexique au Québec. Maintenant, tu es à Québec depuis une semaine, je crois, non? Comment ça va?
Là, ça va faire 2 semaines quand même. Ça va vite, hein? Ça va toujours vite. Ben écoute, ça a été lundi, évidemment, de l'éclipse solaire. Donc, il y a eu une sorte d'éclipse de l'actualité, finalement. J'ai pris part moi-même à l'observation de ce phénomène naturel hors du commun. Il y a eu plus d'engouement que de peur, finalement, autour de l'événement, ou du moins autant. T'sais, on sait qu'on en a parlé pendant à peu près 2 mois avant le fameux événement. Donc, il faut se réjouir quand même de voir que, évidemment, tous les Québécois n'ont pas adhéré à ce climat de peur assez ridicule. Par ailleurs, ça reste intéressant d'observer que comment une société comme le Québec peut se permettre finalement le luxe hein, d'interrompre ses activités un après-midi complet le lundi. Ça reste un peu fascinant, c'est sûr. Je trouve que la population inactive pèse beaucoup sur l'humeur sociale. Donc, c'est quelque chose un peu... au-delà du phénomène naturel, il y a un phénomène de société. Donc, encore une fois, au Québec, on est bon pour faire tous ensemble quelque chose en même temps. Hein. Donc, il y a toujours un effet d'entraînement assez spectaculaire. Et évidemment, c'est un effet médiatique. Donc, on a retrouvé un peu je dirais pas un consensus, mais je suis convaincu que j'avais été au Mexique durant l'événement, il y aurait plus de gens qui auraient évacué leurs occupations, pas juste pour des raisons économiques, mais parce que, bon, une société qui est pluraliste, là, en général, il y a une répartition, disons, des goûts et des tâches. Et c'est un peu, c'est ça. Moi, ce qui m'a frappé quand même au-delà, bon, de la beauté du spectacle, là, c'est l'effet d'entraînement. Et je pense qu'au Québec, bon, ça prend un peu de recul pour le voir, mais c'est un peu, c'est intéressant, sociologiquement.
Oui, ben on le sait au Québec et peut-être particulièrement à Québec. Moi-même venant de la belle région, on avait toujours l'impression justement que tout le monde faisait un peu. Il y a un effet d'entraînement très fort là. On va cueillir des pommes. On a tous les souvenirs du pont de l'île d'Orléans bloqué parce que tout le monde est décidé d'aller cueillir des pommes la même après-midi. Ouais,
ben justement, Francis, t'as entendu, le pont était bloqué à Québec là.
Non.
Parce qu'on a eu l'idée à l'embauche. Parce qu'à Saint-Georges,
oui.
Donc, tu parles de bombes bloquées, ça crée des bouchons. Mais on entendait une mouche voler hein, quand même. Évidemment, il y a un effet de fascination. Ça a des vertus. Une société qui disons, est unie devant un événement, là, ou une société qui sait, disons, se réunir des fois dans l'isolement. Là, c'est un peu paradoxal. Durant la pandémie, disons, on était tous ensemble, isolés les uns des autres. Là. Donc, nous étions collectivement individualistes, comme je disais dans mon livre « Québécois-Mexico ». Mais force est de constater, c'est ça, que quand même, il y a eu des gens qui ont dit « Non, nous, c'est la culture scientifique avant la peur. C'est pas vrai qu'on va se plier à une sorte de volonté de normalisation de l'état d'urgence. » Aujourd'hui, on le sait, tous les phénomènes naturels, quels qu'ils soient, ont l'air de servir à justifier un récit politique, la mise en place de certaines politiques, comme la nouvelle loi au Québec sur l'urgence écologique, là, cette loi-là qui décrète et qui pourrait décréter l'état d'urgence en cas de catastrophe naturelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle? C'est un ruisseau qui déborde ou c'est un véritable ouragan? T'sais, encore une fois, il va falloir qu'on voit. Mais
l'impression qu'un peu la société est un peu schizophrène, puisque d'un côté, on a cette espèce de manie, disons, de contrôle par rapport aux événements, contrôle par rapport à la nature. On va changer, on va maîtriser la nature d'une manière un peu caricaturale parfois. Et d'un autre côté, il y a une espèce de, de vision apocalyptique où est-ce que nous serions les grandes, les victimes et le monde entier va s'écrouler et finalement on ne peut rien faire. Donc il y a une vue de toute puissance et d'impuissance simultanée qui se renvoie la balle.
Ouais, c'est un bon point ça. C'est une espèce de on navigue effectivement entre prométhéisme. L'homme-dieu, finalement, le fantasme de l'homme-dieu et une espèce d'esprit contemplatif qui nous ramène finalement à une forme de sagesse antique. Là. Donc, c'est la société qui voudrait agir absolument dans l'action, dans la révolution pour vraiment freiner l'apocalypse et cette société qui sait finalement prendre un peu de recul. Je ne sais pas si c'est un peu ta. C'est le point que tu voulais amener, là, mais qui prend un peu de recul sur les choses pour se dire, ben, finalement, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, c'est le cosmos. Donc, c'est sûr que ces deux visions, quand même, je ne pense pas qu'elles soient tout à fait complémentaires. Là. C'est-à-dire que le cosmos, c'est très grand et de penser que l'homme contrôle 100% de son environnement naturel, physique, sanitaire, c'est un leurre. Peut-être qu'on aimerait ça avoir le contrôle sur tout. C'est ça un peu le mythe de la politique. Hein, tu sais, bon... à la Révolution française, bon, on en parle la semaine passée, et arrive là, l'idée que bon, l'homme, finalement, est vraiment le maître de la société et qu'il peut créer une société un peu comme elle voudrait qu'elle soit. Là. Donc, nous, on veut une société égalitaire, donc on change de calendrier, on instaure un nouveau régime politique, puis demain, la société va être égalitaire. Ça ne marche pas tout à fait comme ça.
Non, puis au même moment, c'est des régimes qui se sont inspirés justement de la Révolution française, par exemple le régime communiste avec la Révolution russe et tout ça. Eux vont d'un côté prôner la Révolution, donc la possibilité d'agir politiquement sur l'histoire, mais d'un autre côté, on a presque affaire chez Marx avec un déterminisme économique des plus basiques, là, des plus simplets. Et donc, on a quand même, d'une certaine façon, encore une fois, une liberté exacerbée, une liberté niée dans le même système.
Oui. C'est effectivement une des tensions qu'on retrouve dans plusieurs systèmes idéologiques. Donc, bref, l'éclipse solaire au Québec qui a heureusement été observée dans le calme par, je pense, une majorité quand même de nos concitoyens. En même temps, c'est ça. C'est une société qui, je trouve, a l'air un peu de s'ennuyer. C'est-à-dire, on cherche un peu, disons, des activités. Et c'est ça. Reste qu'entendre une mouche voler dans une ville comme Québec de 600 000 bientôt avec la couronne, pour moi, c'est un peu particulier. C'est pas contre l'éclipse solaire, c'est encore moins contre son observation, tout ça. Mais il y a un phénomène là. Il va peut-être falloir qu'on retrouve le goût d'une vie un peu plus... une vitalité de société un peu plus vive, là, disons, pour utiliser un pléonasme. Là, mais...
Moi, c'est l'aventure niée. On, d'une certaine façon, avec la volonté de contrôle, on nie l'aventure, le risque immanent à la vie humaine. Et donc, on finit par s'ennuyer dans cette société ultra-sécure. Et donc, peut-être qu'on peut souhaiter pour le Québec, justement, d'avoir une population qui réussit à trouver dans la vie l'aventure à laquelle elle se sent appelée, mais qu'elle se restreint, justement, par peur du risque, par peur de la mort, par toutes ces peurs dont on va justement parler dans un colloque qui s'en vient le 27 mai. Malheureusement, pour nos auditeurs, c'est complet. Il est trop tard, vous avez passé devant cette opportunité. Mais bien évidemment, oui, ce thème de la peur, c'est quelque chose qu'on va continuer à discuter amplement là, à Libre Média. Notez que l'ensemble des sujets discutés au cours de ce balado sont également traités en format écrit sur le site web de Libre Média au www.libre-media.com. Alors, un des articles qui a été publié cette semaine, c'est justement sur une terre qui était chère depuis l'élection de Javier Milei, ce président argentin qui, justement, dans un article que tu as publié sur le site web, on le voit en train de serrer la main du commandant sud des États-Unis, le général Laura Richardson. Et donc, l'Argentine se rapproche en ce moment des États-Unis.
Oui, c'est ça. C'est très intéressant de suivre l'évolution de Milei en Argentine, hein, qui est l'Argentine qui est devenue une sorte de laboratoire là, de l'expérience libertarienne, entre guillemets. Donc, d'un pays latino-américain qui va connaître ce qu'on appelle une libéralisation. Puis bon, on a des auditeurs là, qui s'intéressent beaucoup à Milei. On était les premiers, en passant, Libre Média, dans le monde francophone, à même anticipé un peu l'élection. Demilègue, j'avais fait une entrevue sur YouTube avec Madame Claudia Perrault.
Même avec proches collaborateurs que tu as interviewé. Oui. L'entrevue est disponible sur le site web, oui, et la chaîne YouTube de Libre Média.
Ben oui, avec Agustin Larrey, qui est un des commentateurs les plus connus en Amérique latine, là, mais vraiment quelqu'un, je pense qu'il est suivi par 1 million de personnes. Puis un auteur de plusieurs livres, etc. Donc vraiment une des figures du renouveau conservateur en Amérique latine. Donc on a une entrevue avec lui en espagnol, c'est-à-dire en français sur YouTube. Donc Mme Perrault, même avant l'élection, hein, déjà, on avait fait une entrevue même avant que finalement, qu'il soit élu, Milei, parce qu'on voyait qu'il pouvait peut-être être élu. Et nous, en tout cas, bref, même avant Tucker Carlson. Bref, il ne faut pas se lancer trop. C'est pas pour se lancer des fleurs. Mais bref, on suit le sujet depuis un moment. Et Milei déçoit d'une certaine façon, en fait, les gens qui, hors de l'Occident, l'appuyaient parce que les gens sont pas très pro-américains ces temps-ci, là, disons, parmi ceux qui font partie d'une certaine résistance au récit dominant. Donc, on se méfie de plus en plus des États-Unis, notamment aussi depuis la recrudescence des hostilités entre le Hamas et Israël. Donc, c'est sûr, les États-Unis n'ont plus vraiment la cote, Francis, quand même auprès de plusieurs internautes déçus des mesures sanitaires, déçus de ce qu'on perçoit comme une décadence, la décadence woke, mais aussi la déconnexion avec des élites, avec le peuple. Donc, il y a beaucoup de gens dans le monde francophone, dans l'anglophone, qui finalement détestent les États-Unis. Là, on peut dire qu'ils vont, ça va jusque-là. Donc, Milei. Pour eux, ce rapprochement avec les États-Unis qui s'incarne à travers d'abord l'installation d'une base militaire conjointe en Patagonie est très mal vu. Donc, on est un peu déçu. Moi, je me pose vraiment en observateur. Là. C'est un dossier que je suis vraiment froidement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se mettre en contexte. C'est-à-dire en Amérique latine, c'est extrêmement polarisé. Et quand on n'est pas avec les États-Unis, ben on est plus avec la Chine. Donc, disons que le choix, tu sais, les gens disent le monde multipolaire, ouais, mais le monde multipolaire, souvent, c'est choisir entre les États-Unis et la Chine, là, pour plusieurs pays concrètement. C'est pas encore choisir entre 5, 6, 7, 8 pôles. Donc, on est encore dans un monde un peu bipolaire, finalement. Puis, vous pouvez racheter la Russie là-dedans. Mais bref, tu vois que ça m'intéresse. Milei qui reçoit justement, c'est ça, le président, le chef du commandement sud des États-Unis. Pour annoncer l'installation d'une base militaire américano-argentine en Patagonie, la fameuse région, une sorte de grande réserve naturelle très connue. Donc, on va installer une base militaire là-bas. Et l'autre annonce qui dénote très clairement ce rapprochement-là, c'est que l'Argentine songe à envoyer de l'aide militaire en Ukraine. Donc, ça, si tu vois, ça déçoit quand même certaines personnes un peu, mettons, qui aimeraient. Trump ou disons une certaine les gens qui prêchent pour un nouvel isolationnisme des États-Unis, etc. Donc l'Ukraine, évidemment, compte tenu de l'escalade en cours, continue à envoyer de l'armement là-bas alors qu'il n'y a absolument aucune forme de négociation actuellement. Ça déçoit un peu. Donc on peut se questionner quand même aussi sur le bien fondé de cette décision-là. Mais Milei est vraiment un pro-américain dans le sens où on le sait, là, c'est un gars qui trippe sur Milton Friedman. Il adore les États-Unis, finalement, Javier Milei, et ça lui vaut quotidiennement d'être accusé dans la presse de gauche dans toute l'Amérique latine d'être un traître à l'Argentine. Donc, on dit que Milei est en train de vendre l'Argentine aux États-Unis. On dit qu'il est en train de céder la souveraineté de l'Argentine à des entreprises étrangères. C'est toujours un peu l'accusation quand on libéralise l'économie. Donc, Milei, c'est finalement une sorte de dictateur néolibéral dans l'esprit de ces gens-là qui est en train de céder son pays non seulement aux Yankees, comme on les appelle, là, gentiment, mais c'est ça. Donc, bref, il faut regarder ça parce que c'est quand même un revirement géopolitique assez important dans la région. Et c'est ça, c'est vraiment symptomatique aussi de la bataille entre la Chine et les États-Unis, parce que là, vous comprenez, là, c'est installer une base militaire en Argentine, américaine, ou américano-argentine, c'est pour contrecarrer l'influence de la Chine. Donc, il y a une bataille géopolitique très claire en Amérique latine qui est largement ignorée dans les grands médias québécois.
Mais outre la fascination, qu'est-ce qu'a gagné l'Argentine dans ce rapprochement? Est-ce qu'on peut pas, parce qu'on a aussi annoncé une certaine dollarisation, c'est toujours très difficile, très touché, comme on dit. Comme il disait justement dans l'entrevue avec Augustine Larré, c'est que c'est une bombe, les crises de banque centrale, c'est une bombe à retardement et on ne désamorce pas une bombe à retardement sans égard aux différents fils là, pour la faire exploser. C'est très délicat. Il faut avoir une approche très prudente, mais quand même. Et comment ça va sur ce terrain-là? Est-ce qu'on peut penser aussi à la dollarisation? Ça peut avoir des problèmes au niveau du narcotrafic, surtout en Amérique du Sud, aussi avec le blanchiment d'argent, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'a gagné peut-être à court terme Javier Milei et l'Argentine
dans... Honnêtement, je sais.
On pourrait penser à des prêts de la Banque mondiale. Est-ce qu'il y a des questions d'ordre économique, surtout qui se cachent derrière ça?
Bonne question. Très bonne question parce que c'est deux pays extrêmement éloignés et je pense pas que les relations économiques entre l'Argentine et les États-Unis soient si fortes que ça, ne serait-ce que pour des raisons géographiques. Ça n'a aucun rapport avec le Mexique et les États-Unis. Donc, la valeur des échanges. D'abord, je pense qu'elle est négligeable. Je le dis comme ça, les auditeurs peuvent vérifier, mais je ne pense pas tout à fait me tromper. Donc, tu me poses la question, évidemment, je ne peux pas répondre à tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut gagner immédiatement, économiquement, à se rapprocher avec les États-Unis en Argentine et à se mettre à dos un peu le Brésil, etc. Moi, ce qui me fascine actuellement, Francis, c'est à quel point les dirigeants latino-américains se chicanent entre eux sur Twitter. Ça n'a pas rapport avec l'Occident. Là. Ils sont tous en train de se taper dessus. Un président mexicain qui sous-entend que le président équatorien, son élection est due à l'assassinat d'un candidat. Milei qui tapait sur Lula, qui tapait sur Petro en Colombie. Petro tape sur Milei. Vraiment, on est devant une joute là, verbale assez très, très corsée là, sur Twitter. Je ne sais pas comment ils font pour se réunir après.
Il y a même Twitter lui-même, ben, X pour les plus intimes, qui est mis en cause puisqu'il y a un proche dans le gouvernement de Lula au Brésil qui a demandé à Elon Musk de censurer des comptes qui feraient de la haine et tout ça. Donc, on est dans une certaine volonté de censure du côté du Brésil et donc Elon Musk était appelé à répondre à ça. Et donc, il y a vraiment beaucoup de polémiques là, qui se passent en ce moment en Amérique du Sud.
Ça, c'est intéressant. Ça, tu me donnes... on va essayer de faire quelque chose là-dessus. C'est très intéressant, mais évidemment, il faut trouver nos experts. Ça, c'est intéressant, effectivement, la bataille entre Musk et le Brésil. Mais le continent latino-américain, c'est ça, est très polarisé. Et la gauche et la droite, vraiment... Ça joue du coude, là.
On est tiraillé. On peut même penser, justement, d'un côté, Javier Milei, qui s'en va faire, volonté de solidarité, entre guillemets, avec les Américains, s'en va en Ukraine. Et d'un autre côté, un des chefs pro-ukrainien, anti-russe, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui va voir Lula dans une fin de semaine quasiment d'amoureux, mais qui Lula qui est lui dans les BRICS, c'est proche de la Russie. Donc, il y a véritablement les cartes sont un peu mélangées un peu partout.
Oui, vraiment. Vraiment. C'est
la preuve que le monde multipolaire, justement, il faut faire des alliances à gauche, à droite. On ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et j'imagine que ça doit être une des critiques que font les oppositions en Argentine contre Milei et son rapprochement avec les Américains.
Mm-hmm. Puis Bolsonaro, avant au Brésil, qui était désavoué forcément par tous les présidents de gauche, n'était pas le candidat préféré des États-Unis non plus. Par exemple, dans du temps de Trump et Bolsonaro, ça fonctionnait. Donc, on voit aussi qu'il suffit de changer de gouvernement pour les BRICS. L'Argentine, qui est censée aussi intégrer les BRICS, en passant, on avait annoncé ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner avec Milei. Puis les BRICS, encore une fois, moi, je doute un peu de leur unité. Là, c'est-à-dire qu'on est vraiment devant des pays qui n'ont en commun qu'un ennemi commun, c'est-à-dire les États-Unis et leur monde hégémonique. Parce que je le répète, entre la Chine et le Brésil, je vois pas le lien. Là. Vous comprenez le Brésil et la Chine culturellement, mais je comprends qu'on n'est pas dans le paradigme civilisationnel d'Huntington. Vous savez, Samuel Huntington qui, lui, croyait que c'était les civilisations qui comptaient, donc les affinités culturelles. Donc, l'Occident, le monde musulman, l'Amérique latine qui séparait de l'Occident, l'Asie. Donc, il séparait les aires culturelles, les très grandes aires culturelles pour en tirer un paradigme dans les relations internationales. Et lui faisait le pari que, bon, quand un pays qui appartenait à notre ère culturelle était attaqué, en général, on avait le réflexe de le défendre. Là, avec l'OTAN, c'est un peu plus compliqué, avec la Turquie, mais bref, c'est quand même un des grands livres en relations internationales de la fin du 20e siècle.
C'est toujours compliqué. On peut penser à l'Union africaine, on peut penser à la Ligue arabe. Bon, oui, c'est vrai qu'il y a des alliances qui se font par rapport aux proximités culturelles, mais en même temps, ce n'est pas tout. On peut penser justement à la situation gazaoui, où une bonne partie du monde arabe, notamment l'Égypte, a un mur pratiquement aussi gros entre Gaza et l'Égypte qu'il y en a un entre Israël et Gaza. Donc, on peut voir que ce n'est pas tout, la culture. Il y a d'autres intérêts toujours en jeu. Cet article, l'Argentine de Milei se rapproche des États-Unis, est disponible pour lecture à nos abonnés uniquement sur Libre Média ou libre-media.com. Jérôme, un deuxième article dont on peut parler ensemble aujourd'hui qui a été publié sur la plateforme de Libre Média, c'est cette question assez grave qui est en train de se passer un peu partout dans le monde, qui concerne la violation des conventions diplomatiques à travers le monde. Alors, dans cet article que tu as publié, Jérôme, sur Libre Média, intitulé « Ambassade violée et bombardée, un seuil a été dépassé », tu nous parles notamment de ce bombardement de l'armée israélienne du consulat iranien en Syrie qui a eu lieu le 1er avril dernier.
Oui, il y a un lien qu'on peut faire entre deux événements récents. Le 1er avril, l'armée israélienne a bombardé le consulat iranien en Syrie, à Damas. Le deuxième, c'est l'irruption dans l'ambassade mexicaine à Quito, la capitale de l'Équateur, de l'armée équatorienne pour y déloger un ex-vice-président équatorien. Donc, si on fait le lien entre ces deux événements-là, on peut se demander, coudonc, qu'est-ce qui se passe avec les conventions diplomatiques? C'est extrêmement grave. Parce que vous savez, le personnel diplomatique est censé avoir l'immunité, c'est-à-dire vous n'êtes pas censé d'abord entrer dans une ambassade. Hein, vous savez, une ambassade, si vous avez l'ambassade des États-Unis à Ottawa, ben, l'ambassade des États-Unis, c'est un territoire américain. C'est un principe assez simple. Donc, l'ambassade du Chili à Pékin est un territoire chilien à Pékin. Donc, vous ne pouvez pas rentrer dans une ambassade. Là. C'est un peu comme les églises à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas si on viole les églises maintenant sur le plan...
L'immunité diplomatique, elle est plus restreinte. On ne peut même pas parler d'immunité diplomatique, mais on peut parler de refuge ou de... C'est un peu le premier safe space. Là. On pouvait penser que, par exemple, un réfugié ou qui se présentait comme réfugié se faisait refuser son statut pour éviter la déportation. On laisse se réfugier dans les églises parce que les policiers n'entraient pas. Maintenant, qu'est-ce que c'est? J'imagine que c'est plus du cas par cas là, aujourd'hui. Là.
Oui, c'est ça. Bref, ces deux événements, c'est ça, qui mettent en relief, disons peut-être, qui annoncent, c'est-à-dire qui annoncent peut-être une période de chaos dans les relations internationales. C'est assez inquiétant. Puis donc, ces deux événements bon, qui peuvent paraître très séparés. Là. Donc, on parle d'un événement, évidemment, qui survient en Amérique latine, enfin, premièrement au Moyen-Orient et ensuite en Amérique latine. Mais le lien, c'est ça. Le lien, c'est que les conventions diplomatiques semblent tenir beaucoup moins, voire ne plus tenir dans certains cas. Ça fait quand même jaser dans le monde diplomatique. Là, et avec raison. Donc là, si on commence par le Moyen-Orient, c'est l'armée israélienne qui... je pense que Tsahal n'a pas encore admis qu'il avait commis ce qu'on appelle un attentat. Mais disons que c'est largement attribué à Israël. Là. Donc, l'attentat fait 16 morts à Damas, parmi lesquels deux importants hauts gradés des forces Al-Quds, donc de l'armée iranienne, donc des généraux, je ne sais pas si c'est des généraux, mais en tout cas des hommes, des militaires très importants. Donc, l'événement est vraiment considéré là, partout à l'extérieur de l'Occident comme une exaction absolument extrêmement grave de la part d'Israël et un tournant. Et un tournant dans la guerre qui oppose Israël au Hamas depuis le 7 octobre. Donc là, tous les yeux sont rivés vers l'Iran. C'est ce que m'explique Alexandre Aoun, un analyste géopolitique du Moyen-Orient, dans cet article-là. Donc, qui nous dit que, évidemment, tout va dépendre de la réponse de l'Iran. Et là, on sait, Joe Biden, en fait, les États-Unis ont averti hier que cette semaine, c'est-à-dire que l'Iran pourrait attaquer Israël rapidement sur son sol.
L'ayatollah Ali Khamenei a affirmé, et là je ouvre les guillemets, le régime maléfique, et là on peut penser à qu'il fait référence à Israël, a fait une erreur, il doit être puni et il le sera. Ali Khamenei, qui, je le rappelle, est le guide suprême iranien.
Ouais. Donc c'est à peu près impossible que l'Iran ne réagisse pas, parce que malheureusement la guerre c'est un peu bébé, là, c'est-à-dire c'est un peu...
Ne pas réagir, c'est un aveu de faiblesse aussi.
C'est ça, c'est un peu œil pour œil, dent pour dent, pas tout à fait. Heureusement, il y a des fois des gens qui peuvent s'élever au-dessus de ça, mais malheureusement, la guerre marche beaucoup, ou un état de guerre larvé, ou disons en préparation, ça marche beaucoup avec des représailles, puis donc c'est à peu près impossible que l'Iran... Donc la question de savoir que l'Iran ne réagisse pas, la question c'est de savoir comment va réagir l'Iran. Donc moi, Alexandre Aoun me dit que c'est pas dans l'intérêt de l'Iran de répondre tout de suite. Donc apparemment, l'Iran est un pays qui prend son temps et qui a une conception du temps qui est beaucoup plus longue, plus étendue que la nôtre, un peu comme la Russie. Peut-être tous les pays non occidentaux ont peut-être une vision du temps qui est plus longue que la nôtre, en fait. Là.
C'est que la vengeance est un plat qui se mange froid, comme on dit.
Ouais, très froid peut-être dans ce cas-là. Donc, on attend, mais chose certaine, chers auditeurs, là, il se passe des choses, là, c'est clair. Et on se demande, tu sais, que cherche Israël en commettant ce genre de... en faisant ce genre de bombardement? Je veux dire, Israël a fermé 28 ambassades dans le monde parce que pour prévenir les représailles de l'Iran. Donc, c'est sûr que si vous pilonnez une ambassade, vous pouvez vous attendre à ce qu'on pilonne la vôtre, là. C'est pas tout à fait, enfin, je sais pas moi à quel point c'est stratégique de faire ça, parce que là, vous comprenez, là, si le personnel diplomatique se met à ne plus se sentir en sécurité, c'est parce que ça concerne évidemment tous les pays dans le monde en même temps. Donc là, la Russie a condamné Israël, tous les pays non occidentaux ont condamné cette pratique-là. Tous les pays occidentaux ont par ailleurs condamné l'irruption de l'armée équatorienne dans l'ambassade mexicaine. Donc, tout le monde, évidemment, est préoccupé par ça parce que tout le monde a son personnel diplomatique. Mais bref, est-ce qu'on va assister à une véritable escalade au Moyen-Orient dans les prochains jours? C'est quand même une possibilité. C'est une vraie possibilité. Et d'autant plus qu'on sait l'Iran a plein d'alliés dans plein de pays là, moyen-orientaux. On pense au Hezbollah au Liban, aux Houthis au Yémen, qui font beaucoup jaser actuellement. Le Hamas et le djihad islamique à Gaza et les milices, bon, sans compter les milices chiites en Irak. Donc, c'est un truc, un immense casse-tête et il y a un effet domino qui est possible. Et
oui, justement, dans ton article, tu parles d'une réaction en chaîne. Là. Alors, ça peut se déployer, oui, non seulement aux ambassades de ces deux pays qui sont directement impliqués, on parle de l'Iran, on parle d'Israël, mais également d'autres pays. Et là, dans ton article, tu parles de l'Équateur qui a des politiques de respect de cette immunité, de cette zone infranchissable des ambassades. On peut penser à Julian Assange qui s'est réfugié pendant plusieurs années dans l'ambassade équatorienne à Londres, au Royaume-Uni. De plus en plus de pays peuvent commettre des violations de cet espace respecté. Là. C'est un espace où est-ce que...
Sacré, oui. D'une certaine façon. Ben oui, parce qu'on ne s'attendait absolument pas à ça de l'Équateur. Ça fait bien de le rappeler. Julian Assange qui était dans l'ambassade de l'Équateur à Londres, dans 5 ans, entre 2012 et 2017. Donc, comment l'Équateur a-t-il pu pénétrer une ambassade? Ça fait réagir beaucoup, beaucoup. Tous les pays latino-américains n'en reviennent pas. On peut acheter lui-même l'Union européenne. En fait, il n'y a personne qui en revient. Puis l'Équateur, qui était un pays qui n'est pas insignifiant, ce serait un peu irrespectueux, mais c'est un pays, disons, qui n'avait pas de poids particulier dans l'histoire là, jusqu'à récemment, disons, là, et qui se retrouve maintenant avec des gangs armés. En fait, qui est un pays assez pacifique ou pacifié, où qui ne connaissait pas ce genre de troubles jusqu'à récemment, là, où il y a eu les fameux attentats où des gangs armés ont pris le contrôle, sont entrés dans différents lieux, parmi lesquels des universités. Donc, ça fait beaucoup jaser. Là, nous, on avait parlé aussi à Libre Média avec Simone Pacciano, que j'ai réinterviewé justement pour cet article-là, mais là, en version de résultat, ça se retrouve à l'écrit. Donc, on n'attendait pas ça, du tout de ça de l'Équateur, mais encore une fois, par contre, il faut revenir au contexte latino-américain, c'est-à-dire une escalade. C'est-à-dire que le président mexicain s'en était pris finalement au gouvernement équatorien qui, lui, a voulu un peu riposter aux accusations là, de corruption lancées par le président mexicain en prenant la décision très, très, très maladroite là, de rentrer dans l'ambassade du Mexique. Là. Mais on ne comprend pas non plus vraiment la décision du Mexique de donner l'asile au vice-président Jorge Glass, parce qu'il était il est soupçonné de corruption, très clairement. Là. Donc, on parle de quelqu'un qui est soupçonné, là, plus que soupçonné, là, d'être lié au crime organisé. Donc, pourquoi le Mexique, qui, lui, se met là-dedans, si on peut dire, là, parce que... Mais le Mexique, il y a aussi une longue tradition d'accueil de réfugiés. Hein. Donc, même le Mexique, à un moment donné, a pensé, on va-tu recevoir Julian Assange? Ça a déjà été une hypothèse qui a été émise, finalement. Je ne pense pas que ça aurait beaucoup plu aux Américains, c'est le pays voisin. Mais le Mexique, on le sait, a accueilli beaucoup de dissidents. Par exemple, Trotsky. Hein, Trotsky, vous savez, a été assassiné à Mexico, très près d'une maison, d'ailleurs, où j'ai habité, à Coyoacán. J'ai habité un an très près de l'endroit où Trotsky a été assassiné. Vous savez, il y a eu une... il a été hébergé par le fameux peintre là, qui était le mari de Frida Kahlo, donc Diego Rivera, le grand muraliste, donc, qui était lui-même un fervent communiste. Donc, il avait accueilli Trotsky chez lui avant qu'il se fasse assassiner par les services secrets soviétiques. Donc, depuis cette époque-là, et peut-être même avant, le Mexique est réputé pour accueillir des gens. Bref, ça brasse beaucoup en dehors du Québec, mon cher Francis.
Mais on pense aussi que justement ce président mexicain, là, Andrés Manuel López Obrador, qui a peut-être un peu un petit côté Trump au sens où il est très impulsif, peut-être. On se rappelle qu'il avait même divulgué le numéro de téléphone personnel d'une journaliste du New York Times laquelle avait écrit un article le traitant de narco-État, là, je pense. Donc, il y avait peut-être...
C'est quelqu'un, ce gars-là. Là. C'est vraiment... Puis les parallèles sont pas infondés, non. Là, c'est bon, tu y vas avec la psychologie, le trait de caractère, c'est-à-dire, mais c'est un populiste, hein. C'est vraiment une gauche populiste, mais très populiste. On n'est pas du tout dans la gauche Trudeau, la gauche qui dépense 190 000 $ de nourriture d'avion. Là. D'ailleurs, c'est un type qui a vendu l'avion présidentiel, Andrés Manuel López Obrador. Il l'a fait tirer à la loterie. Ça, c'est un des trucs qu'il a fait. Le Mexique avait un avion présidentiel, comme tous les pays ont un avion présidentiel, comme Air Force One, ça. Et lui a dit, pour moi, c'est un symbole de décadence des gouvernements précédents. Moi, je vais prendre des vols commerciaux. Et il aime prendre des bains de foule, finalement, dans les avions. Tu peux prendre l'avion, maintenant, tu peux faire Montréal-Mexico, puis il pourrait être là, tu sais. Donc, il a fait ça, il a vendu, il l'a fait tirer à loterie. Donc, tu vois, un personnage assez coloré. Mais au-delà de ça, c'est très intéressant parce qu'on le comparait à Trump, c'est ça, parce que pour son populisme, pour son protectionnisme aussi, d'une certaine façon. Puis quand est arrivée la crise migratoire au Mexique, ça fait plusieurs années, il a bloqué aussi beaucoup de migrants d'Amérique centrale. Donc, le paradoxe, c'est qu'il était accusé au Mexique de faire du Trumpisme. Là, c'est-à-dire, c'est les Mexicains qui, eux, se plaignent d'être victimes de discrimination à la frontière américaine. Eux-mêmes étaient accusés de faire la discrimination envers les migrants centro-américains. Donc, comme quoi, on est toujours le raciste de quelqu'un. T'sais, donc, ça finit pas cette chaîne-là non plus. Là. Donc, il y a plusieurs... d'ailleurs, ils s'entendent bien. Hein, ils s'entendent bien, Trump et AMLO. On se souvient d'au moins deux réunions, en tout cas au moins une. Et les deux gars ont l'air de. Les deux hommes ont l'air de s'entendre assez bien. Parce qu'ils partagent effectivement une vision Au-delà de la droite et de la gauche, très populiste, c'est-à-dire le peuple, la proximité, des réflexes un peu impulsifs. Effectivement, il y a tout à fait, ton intuition n'est pas mauvaise du tout, là.
Très bien. Ambassade violée et bombardée, un seuil a été dépassé. Un article de Jérôme Blanchet-Gravel disponible pour tout le monde au www.libre-media.com.
Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libre Média, parce que vos choix sont importants.
Et toi, Francis, donc, tu viens de diffuser sur YouTube, et on a aussi un résumé écrit sur notre plateforme, parce que vous savez, tous les reportages vidéo se retrouvent aussi sur notre plateforme qui les redirige vers YouTube. Donc, pour ceux qui ne consulteraient pas YouTube toujours directement, sachez que vous ne perdez rien sur le site. Donc, Francis, toi, tu as diffusé, c'est-à-dire hier, un reportage sur les agriculteurs québécois en colère qui se sont réunis à Vaudreuil-Dorion. Peux-tu nous parler un peu de ta démarche, mais surtout de leurs revendications?
Mercredi dernier, les agriculteurs, un peu à la mode européenne, se sont mis à l'exercice de la manifestation assez théâtrale, puisqu'ils ils ont utilisé leur instrument de travail, en l'occurrence des tracteurs, pour pouvoir à la fois faire un défilé dans les rues, manifestant, bloquant d'une certaine façon le trafic à certains endroits, et se sont réunis dans un grand stationnement d'une grande surface à Vaudreuil-Dorion, pour entendre différents chefs syndicaux et politiques parler de la crise que vit l'agriculture au Québec. Donc, je ne veux pas vendre le punch, mais pour dire qu'il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'altercation. C'est vraiment une belle atmosphère. La majorité des personnes présentes étaient des agriculteurs eux-mêmes venus soutenir ce rassemblement. Rassemblement qui s'inscrit dans une série, hein, parce qu'il y en a eu plusieurs. On peut penser qu'il y en a eu... Bon, par exemple, j'ai parlé à Martin Caron, le président de l'UPA, qui m'a dit qu'il y avait 6 manifestations organisées la semaine prochaine, dont une qui va avoir lieu Saint-Hyacinthe, mais il va en avoir dans l'Outaouais, Chaudière-Appalaches, un peu partout. Donc, l'ensemble des sections locales de l'UPA vont se réunir un peu partout pour faire entendre leur voix par rapport à des revendications qu'ils ont, puisqu'ils ne se sentent pas écoutés. Beaucoup de griefs par rapport au gouvernement, bien évidemment. Des griefs par rapport aux différentes réglementations qu'il y a, le gouvernement de la CAQ en ce moment, mais on peut penser que c'est une longue addition de réglementations souvent liées aux règles environnementales, où aujourd'hui, on le sait, l'environnement est employé à toutes les sauces. Donc, on peut s'imaginer qu'à chaque fois que le mot environnement est prononcé, il y a toujours une série de réglementations qui va avec ça. Et donc, plus les gouvernements sont sensibles, du moins médiatiquement, à la question, la manifestation politique de la question environnementale, plus il y a de quelqu'un qui doit payer la facture. Et dans une grande partie des cas, ceux qui payent le gros de la facture de cette réglementation au pluriel, et dont l'efficacité est toujours débattue, tout dépendant de quelle règle on fait référence. Donc, justement, ce poids de réglementation, qu'est-ce que ça fait dans le pratique? C'est que, d'un côté, ça augmente les coûts, qui doit les absorber? Est-ce que c'est le consommateur qui doit l'absorber? Bien là, on a des problèmes d'inflation. Les gens, on le sait aujourd'hui, ne mangent presque plus, commencent à ne plus manger à leur faim, ou du moins baisser la qualité des aliments qu'ils mangent. Donc, il y a une limite à ce qu'on peut demander comme augmentation aux consommateurs. Il y a une limite, et donc, si ce n'est pas le consommateur, si ce n'est pas le distributeur, parce qu'on sait qu'eux, leur marge, ils ont réussi à les respecter, leurs 4 % je crois que les distributeurs, les grandes épiceries, les grandes surfaces ont réussi à respecter, malgré l'inflation, leur marge de profit. Donc, eux, ils ont réussi à refiler la facture à d'autres. Donc, on peut penser que c'est de part et d'autre. Donc, le consommateur et la matière première c'est-à-dire le cultivateur, qui ont dû assumer les coûts supplémentaires que l'inflation a créés. Inflation qui, on se le rappelle, est principalement due aux mesures sanitaires et à l'allègement quantitatif, quantitative easing, qu'on dit, c'est-à-dire l'imprimage d'argent là, en bon québécois, qu'on fait spécialement le gouvernement Trudeau, qui avait le contrôle, entre guillemets, sur la Banque centrale, mais dont le premier ministre du Québec n'a pas mis son droit de veto, disons ça comme ça. Donc, on peut penser que cette inflation, l'augmentation des prix fait en sorte que le travail d'agriculteur est de plus en plus difficile, doit faire de plus en plus d'heures, mais ajouter à cela la réglementation. Réglementation, comme je l'ai dit, souvent fait sous le couvert de protection de l'environnement. Et comment ça se traduit dans le concret? Ça se traduit par des inspecteurs qui se rendent sur les fermes pour vérifier si l'ensemble des cases qui sont présentes sur leur dossier sont respectées. Donc, on peut imaginez-vous là, dans votre tête là, un inspecteur avec son zèle. J'utilise le mot zèle puisqu'il était présent sur certaines pancartes des manifestants hier. Ce zèle administratif qui fait en sorte que là vous n'avez pas respecté l'alinéa 2B de la protection de machin. La vache est rentrée 3 minutes en retard ou il manque 5 cm d'espace entre vos vaches. Bon, on peut imaginer le zèle, toute la possibilité de zèle que le gouvernement et les inspecteurs peuvent faire. Surtout au Québec.
Mais je pense que ça ne doit pas être moins pire en Argentine, quoi qu'on ne sait pas. Là.
Peut-être.
D'ailleurs, on rêve un peu une série de reportages en Argentine et peut-être un jour une entrevue avec Javier Milei, vous le savez, j'y travaille toujours. Mm-hmm. Mais donc, tu as pu, Francis, interviewer 3 personnes hier, finalement.
Oui.
Avant-hier, c'est-à-dire.
Oui, exactement. Une bonne série de reportages en Argentine qui serait. On peut penser justement que des situations radicales, on pourrait dire, ou des politiques radicales comme celle de Javier Milei sont possibles, ou l'élection de politiciens comme ceux-là sont possibles au moment où il y a un ras-le-bol. Il y a une déconnexion trop longue et trop grande qui se crée entre les représentants gouvernementaux et la population et les corps intermédiaires comme les groupes d'agriculteurs et tout ça, fait en sorte qu'un jour la marmite explose et ça finit en coupe drastique et en solution drastique, chose qui aurait été moins douloureuse si on était passé par le dialogue et la réforme graduelle. Donc oui, j'ai rencontré 3 personnes, bon, plusieurs personnes, mais en entrevue dans le reportage que vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube de Libre Média, il y a 3 personnes, Ange-Marie Delforge, qui est la présidente du syndicat de l'UPA pour la section locale, en l'occurrence Vaudreuil-Soulanges, puisque c'est à Vaudreuil-Dorion que nous étions réunis, et qui parle un peu de son expérience d'agricultrice, de son expérience de chef syndical, c'est-à-dire qu'elle représente l'ensemble des agriculteurs qui sont présents sur le territoire. Donc, il y a une certaine homogénéité des problématiques qui se retrouvent. Donc, elle m'explique les différents problèmes, le manque d'écoute des gouvernements, le manque de respect. Bon, on le sait, là, la question de l'environnement, c'est très à la mode. Mais qui est directement au jour le jour, dans son quotidien, en contact avec la nature, mais la vraie nature, là, pas la nature Walt Disney, pas la nature du plateau Mont-Royal, pas la nature du parc La Fontaine, la vraie nature, c'est-à-dire les différences qu'on a dans les saisons et tout ça, c'est eux qui le vivent, l'ensemencement, les récoltes et tout ça. Eux, ils sont au front, eux, ils connaissent la nature et la majorité sont des entrepreneurs, mais qui ont fait des études en agronomie, beaucoup. On ne s'invente pas... agriculteurs. Donc, ces agriculteurs, ils se font imposer des réglementations qui viennent souvent de fonctionnaires qui sont dans les ministères, dans les grandes villes, souvent des gens qui ont une vision théorique de la nature, qui ont une vision politique de la nature et qui ont une vision partisane et même médiatique souvent du rapport à la nature. Et donc, ils vont présenter ils vont créer des lois qui ne sont pas réalisables ou qui sont souvent exagérés par rapport à la nature. Et donc, ces fermiers-là se rendent compte que, bon, le gouvernement ne leur font pas confiance. Ce sont leurs terres, ce sont eux qui la cultivent, ils savent comment la cultiver, ils savent comment faire porter du fruit à leurs terres. Et là, ils se ramassent avec des réglementations qui sont créées par des gens qui ne connaissent pas la réalité concrète. Et donc, c'est un manque de confiance. Moi, je suis bien d'accord. Par exemple, si j'étais un parent, si j'étais, peu importe la responsabilité que j'ai, si le gouvernement vient s'insinuer, pour rien nous dire, dans la relation que j'ai avec mon entreprise, on pourrait penser que j'en serais très frustré. Et c'est exactement ça qui arrive avec les agriculteurs aujourd'hui. Ils se ramassent avec des...
Ils se sentent infantilisés, Francis, un peu.
Oui, exactement.
Ils se sentent un rapport très paternaliste, évidemment.
Exactement. Ils ont un manque de reconnaissance. Ils sentent que le gouvernement ne leur fait pas confiance, qu'ils sont traités un peu comme des sujets. On pourrait même penser peut-être aux relations. Régime seigneurial, exactement. Le serf avec son seigneur. Le seigneur, en l'occurrence, étant l'État aujourd'hui. Eux sont des serfs, ceux qui cultivent la terre, mais en échange, ils se font promettre une protection et une certaine sécurité. Mais aujourd'hui, on voit que l'État-providence est un modèle en échec total. Et on le sait à Libre Média, on couvre souvent des histoires qui sont liées à l'échec et à l'effondrement de l'État-providence. Et on voit comment, dans le domaine de l'agriculture, cet effondrement de l'État-providence a des effets concrets dans la vie de ces gens-là. Alors, j'ai rencontré notamment cette personne, le chef syndical de Vaudreuil-Soulanges, mais j'ai rencontré également un chef politique. Il y avait deux personnalités pour être politique qui étaient sur place. Une seule des deux a fait un discours, c'est Éric Duhaime. Éric Duhaime a fait un discours qui a répondu à certaines de mes questions sur qu'est-ce que le Parti conservateur a proposé aux agriculteurs. Grosso modo, on sait que, puisque d'un côté, les syndicats souvent ont des demandes de subventions, ils demandent plus d'argent, ils demandent plus d'aide gouvernementale, c'est-à-dire plus de retour de ce qu'ils eux-mêmes donnent au gouvernement. Mais pour ce qui est d'Éric Duhaime et le Parti conservateur, c'est plutôt, il ne va pas nécessairement promettre de donner plus d'argent, mais il va plus dire au gouvernement il faut qu'il arrête de nuire. Donc, avant de faire le bien, il faut ne pas nuire. Et ce que le gouvernement fait en ce moment à plusieurs égards, notamment par la paperasse, on peut penser à des agriculteurs, à des histoires, on peut penser que certains passent doivent engager des gens pour remplir les formulaires du gouvernement. Et souvent, c'est les gens que les agriculteurs engagent pour répondre, pour remplir les formulaires, gagnent plus que l'agriculteur lui-même à la fin de l'année. Donc, quand tu es un propriétaire et que ton employé fait plus que toi, il y a un petit problème. Là. Donc, il y a une mauvaise priorité et il y a une espèce de vision un peu délirante là, de contrôle. On en a parlé au début de ce balado. Il y a une volonté de contrôle total sur la nature et sur notre environnement. Et aujourd'hui, les premiers à en payer le prix, ce sont les agriculteurs. Donc, un beau discours d'Éric Duhaime qui a voulu répondre à quelques-unes de nos questions. Et finalement, moi, j'ai pu rencontrer le président de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles du Québec, son président général Martin Caron, qui lui-même nous explique dans le détail qu'est-ce que ça veut dire cette paperasse là, au quotidien. Quel genre d'effet négatif elle peut avoir sur la vie et sur le bonheur des agriculteurs et sur, peut-être une tendance au découragement que peuvent avoir certains jeunes par rapport à la relève, puisqu'on a un problème, on le sait au Québec, un vieillissement de la population. On va avoir éventuellement plus de retraités que de travailleurs. Ben, c'est vrai dans le domaine de l'agriculture aujourd'hui aussi. Donc, et il y a tout le problème de l'endettement aussi avec les taux d'intérêt. On peut s'imaginer lorsqu'on doit, dans les mesures de succession, on sait que le gouvernement vient lui aussi toujours prendre sa petite cote sur l'héritage, le transfert de l'entreprise. Et donc, la génération suivante doit emprunter pour acheter la ferme des parents. Et pour pouvoir emprunter, il doit s'endetter. Et pour s'endetter, il doit contracter un prêt avec des taux d'intérêt dus à l'inflation. Donc, c'est une spirale. On le voit que c'est une spirale infernale, un cercle vicieux dans lequel l'ensemble des secteurs d'activité économique au Québec et dans plusieurs pays occidentaux, on est pris un peu là-dedans. Donc, on peut comprendre la souffrance des agriculteurs, mais comme le dit Éric Duhaime, on peut souhaiter, et plusieurs des agriculteurs que j'ai rencontrés, on peut souhaiter rapidement un retrait et un allègement des différentes mesures gouvernementales qui sont demandées aux agriculteurs. Et on peut lire les pancartes là, Stop à l'agriculture sous pression. Un reportage. Allez voir sur la chaîne YouTube de Libre Média ainsi que sur le site web au libre-média.com. www.lecoureur.com. Alors, Jérôme, pour terminer l'épisode, un autre article disponible sur le site de Libre Média, « Les provinces doivent s'unir face au monstre fédéral », un article de Virginie Dostie-Toupin, qui est une des facettes des différents déboires du gouvernement Trudeau et de Justin Trudeau lui-même auquel il fait face en ce moment.
Oui, bien, on le sait, il y a un problème de centralisation. Enfin, si on est du côté des provinces, on voit un problème de centralisation. Ça date pas d'hier. Évidemment, on sait la tendance centralisatrice du Canada. C'est quelque chose. On pourrait faire remonter ça, je pense, à Pierre-Éliott Trudeau, peut-être un peu avant. Non seulement le Québec en souffre, mais on sait l'Alberta et d'autres provinces canadiennes, Manitoba, je pense, qui commencent à vraiment se sentir étouffées par le fédéral. Et par un fédéral qui est gouverné par quelqu'un, Justin Trudeau, dont la compétence, fait sourciller, là, disons-le poliment. Justin Trudeau, dont le règne achève, heureusement. Moi, je suis un peu découragé. T'sais, les gens s'en réjouissent, mais veux pas, on va avoir connu un 10 ans de Trudeau au Canada. Donc, moi, ça me décourage, Francis, parce que les Canadiens ont voté, ils vont avoir voté, ça veut dire 4 fois, je pense, pour Justin Trudeau. Ça reste phénoménal. Donc, on peut bien se réjouir du retour des conservateurs de Poilievre. Mais mon Dieu, quelle catastrophe quand même pour le Canada, sur le plan économique, sur le plan diplomatique.
Parlons-en du niveau diplomatique, puisqu'il était d'une certaine façon quasiment devant procès cette semaine pour parler de l'ingérence chinoise, mais on dirait qu'il ne savait pas.
Des déclarations encore là très surprenantes d'un Trudeau qui nous dit finalement qu'il ne lit pas, qu'il ne lit rien finalement. Pour les gens qui n'ont pas vu, là, justement, Justin Trudeau était devant un comité pour s'expliquer sur les allégations d'ingérence chinoise dans les élections de 2019 et 2021. Et un Trudeau qui nous dit, c'est ça, qu'il n'était pas au courant et qui, finalement, il désavoue en quelque sorte les services de renseignement canadiens en disant que, en les contredisant et en disant finalement qu'il n'était pas au courant. De ce à quoi on l'alertait. Un Justin Trudeau qui désavoue le SCRS, je ne sais pas comment c'est perçu chez nos services de renseignement, mais qui finalement nous dit que le travail du SCRS, pour lui, ce n'est pas très important. Honnêtement, c'est très gros. C'est très gros comme genre d'aveu. Un aveu qui, encore une fois, dénote un manque de compétence, mais aussi une forme d'arrogance. C'est-à-dire que, écoutez, là, Trudeau nous dit que les avertissements du SCRS, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Non, mais écoutez, c'est incroyable. C'est incroyable. Là. Un dirigeant comme ça, on n'en voit pas beaucoup. Puis heureusement, parce que je vous dis, le Canada sera à terre.
Oui, à terre économiquement aussi, puisqu'on sait que la semaine prochaine, il va y avoir un nouveau budget, un budget de la ministre très compétente, elle aussi, Chrystia Freeland, qui va justement endetter encore plus, faire du micromanagement gouvernemental et chercher à sauver, à éradiquer le mal sur la terre et l'ensemble des souffrances des Canadiens se substituant, non pas cette fois-ci, seulement des différents paliers, c'est-à-dire les provinces, mais il va se substituer même aux familles et à leurs responsabilités envers leurs propres enfants. Donc, on est véritablement dans une violation, mais des plus radicales que le pays en a vu, du principe de subsidiarité.
Et on ose parler de justice intergénérationnelle. Alors, c'est incroyable. Comment on peut prôner la justice intergénérationnelle en léguant une pareille dette aux prochaines générations, encore une fois, il y a une incompréhension de ce qu'on fait, ou du moins, la part de l'idéologie est très forte. Ça fait penser, ils mettent le feu à la maison, là, qu'ils quittent. Là, je ne comprends pas, moi, c'est ce genre de réflexe-là, cette précipitation. on dirait qu'ils se dépêchent à dépenser le plus possible avant de s'en aller. À quoi ça tient, ce genre de réaction-là? Je trouve ça très étrange et très irresponsable. Mais on s'achève, chers amis, ça achève. Mais les torts, quand même, c'est des torts irréparables, presque, dont on parle, parce que la fonction publique, évidemment, est imprégnée de cette culture libérale. Et avant d'être capable de changer la direction de cet énorme navire, cet énorme paquebot qu'est la fonction fédérale, publique fédérale, comprenez que les conservateurs vont devoir mettre des efforts colossaux là, pour changer, réorienter finalement le Canada. Là. C'est titanique un peu qu'on essaie de dévier la trajectoire devant l'iceberg. Là. Donc, vous êtes pogné avec ça même. Donc, une fonction publique, on le sait, où... très, très imprégné de wokisme, etc. Donc, les fonctionnaires fédéraux qui ont intégré, qui ont adopté la mentalité Trudeau, finalement. Donc, on va subir les séquelles plusieurs années de ça. Espérons que le Canada ne s'appauvrisse pas trop. Bon, on reste un pays du premier monde, comme on dit en espagnol, le primer mundo, mais je vous le dis, le premier monde, des fois, on se demande si c'est encore le premier. Ça, t'sais, on parle de premier, deuxième, troisième monde. Bon, ce pas des expressions qu'on utilise en français, mais de plus en plus, il y a des occasions, on a l'occasion en fait de nous questionner sur le rôle, la position du Canada par rapport aux pays émergents. Dans 30-40 ans, est-ce que le Canada sera encore perçu comme un des pays les plus riches de la planète? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Francis?
C'est une grande question. C'est toujours un peu hasardeux de faire des grandes prédictions comme cela, mais c'est sûr que si on reste dans... Si les conservateurs ne sont pas là pour venir faire le ménage dans la prochaine décennie, c'est sûr qu'on va s'enfoncer toujours plus. Comme je l'ai dit, l'inflation, on voit souvent ça comme quelque chose qui est simplement une augmentation des prix, mais ce n'est pas une augmentation des prix, c'est une dévaluation de la valeur du pouvoir d'achat de chaque dollar gagné. Qu'on ait besoin... Alors qu'au Québec, par exemple, je crois que le salaire moyen est autour de 53 000 $, qu'on ait besoin pour une maison décente d'un budget d'environ 700 000 $ entre 500 et 700 000 $ dans la grande région de Montréal, et on tombe dans des millions dès qu'on rentre sur l'île. Ça montre la faiblesse du pouvoir d'achat, c'est-à-dire que ceux qui prenaient à tout au plus 250 000 $ il y a 20 ans pour acheter une maison. Des unités de 1 $, ça en prend 700 000. Donc, véritablement, on a affaire, je crois, bon, il y a des différentes théories économiques, il y a différentes théories géopolitiques. Bon, on peut analyser ça de beaucoup d'angles. Mais moi, un des angles que j'affectionne particulièrement, c'est celui justement du déclin culturel. C'est-à-dire que lorsque vous videz de la substance ou de la substance sociale, quelle est la substance sociale? C'est la compétence, un autre mot pour parler de compétence. Donc, lorsque vous videz le principe de compétence de sa substance, vous le dévaluez pour le changer, pour lui faire place à d'autres principes, les autres catégories que l'on utilise pour qui sont substituées à la compétence, bien, lorsque vous généralisez ça à une société en entier, ça fait des belles photos. Ça fait des belles vidéos, ça fait des belles nouvelles, mais en réalité, ça augmente pas la productivité, ça augmente pas l'innovation, ça augmente pas la richesse d'un pays. Donc là, vous avez affaire à un déclin de la compétence généralisée. Et donc, que lorsque ça touche la gouvernance la plus haute, qu'est-ce que ça donne? Ça donne Justin Trudeau au pouvoir, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas du tout les compétences pour réaliser la complexité des politiques qu'il va donner. Mais on peut voir ça dans l'ensemble des professions, j'ai l'impression. Et donc, c'est quand on a affaire à une culture comme ça, la culture occidentale qui est en déclin, eh bien, c'est la compétence qui se dilue un peu partout. D'où, d'une certaine façon, la réaction populiste, puisque les gens, grosso modo, étaient habitués à se faire gouverner par des gens qui étaient plus compétents qu'eux. Et là, ils se ramassent avec des gens qui sont aussi ou moins compétents qu'eux qui les dirigent. Et donc, d'où la frustration généralisée également et ce sentiment de déclin. Et on pourrait multiplier les facteurs. Là.
Et de dépossession. Bien dit, merci.
Oui, exactement. Donc, on a affaire à... Donc, moi, c'est un peu ce dans quoi je verrais. Donc, si... Est-ce que le déclin occidental est réversible? Disons qu'il y a peu d'éléments humains là, qui permettent d'espérer à ce niveau-là. Là. Je ferai part d'un certain pessimisme, mais l'Occident n'est pas, disons, c'est pas le déclin de l'Occident qui n'équivaut pas au déclin du monde entier. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir, justement, dans les populations émergentes, très jeunes, qui sont capables, ou le ferment de l'Occident, c'est-à-dire cette primauté de la liberté d'expression, cette primauté de la liberté, cette primauté de l'individu, la primauté de la compétence sur la famille, sur ce qu'on appelait jadis la race, le primat de la méritocratie. Je pense que ces idées-là, c'est là-dessus qu'il faut miser et essayer de convaincre le plus large possible de l'ensemble des peuples sur la Terre d'y adhérer pour le propre bénéfice. Tel a été le cas en Occident. Mais aujourd'hui, on a décidé de déroger à la responsabilité de porter ces idéaux difficiles, oui, mais accessibles et combien fructueux, en convainquant les différentes populations sur la Terre plus jeunes, nous pourrons arriver à un monde encore plus beau, encore plus riche, à la fois économiquement, culturellement, intellectuellement et tout ça. Donc, disons que pour moi, on pourrait dire que le futur de l'Occident n'est plus en Occident. Disons ça comme ça.
Oui, donc tu penses que des peuples non occidentaux vont pouvoir prendre le relais finalement de certaines valeurs occidentales?
C'est une possibilité, c'est mon espoir, mais c'est quand même, c'est pas joué d'avance. Donc, il faut travailler à conquérir le cœur.
Pas impossible.
Mais grande conversation que nous avons à la fin de ce balado pour alléger un peu avant le début de la fin de semaine. Jérôme, on a pris l'habitude de parler du grand enjeu de la semaine. Quel est cet grand enjeu qui est cette forme d'humour et d'ironie pour souligner l'incapacité de certains médias et d'une partie de la population à s'intéresser aux enjeux qui les concernent véritablement, et de dénoncer un peu cette prolifération des faits divers. Quel est ton grand enjeu de la semaine, Jérôme?
Ben, la première place sur le podium, et j'en ai juste un, là, mais vous savez, il y en a tellement qui passent, là, il faut que je m'efforce.
On a déjà parlé de l'éclipse, là, il faut en trouver un autre.
C'est ça. Donc, je donne le prix est accordé au retour des dindes sauvages dans le Myland cette fois. Donc, l'article est tiré de TVA Nouvelles intitulé « Une dinde sauvage en cavale dans le Myland ». Donc, on ne peut pas ne pas parler évidemment du retour des dindes sauvages. Donc, aussitôt l'éclipse éclipsée, voici le retour des dindes sauvages. Donc, évidemment, nos grands médias vont devoir se trouver d'autres sujets que l'éclipse qu'on a apprécié, qu'on a admiré lundi, mais c'est, vous savez, on en a tellement parlé, il faut compenser avec autre chose. Donc, on peut s'attendre au retour d'une espèce de zoophobie là, québécoise vous vous rappelez évidemment du chat errant. Mais on a beaucoup d'articles d'animaux hein, où on fait beaucoup des animaux. Et finalement,
on se rappelle l'enjeu des cerfs. On se rappelle de l'enjeu des cerfs, les cerfs de Virginie, chevreuil, qui étaient au parc à Longueuil, oui.
Et finalement, Francis, on vit difficilement avec nos animaux sauvages, finalement. Tu sais, on est censé être les héritiers des coureurs des bois, mais il me semble qu'à chaque fois, les dindes sauvages, c'est pas une menace.
Sauvages, c'est justement cette qualité qu'on attribue à certains animaux de ne pas être domestiqués. Donc, ils échappent d'une certaine façon par leur sauvagerie, je ne sais pas comment dire ça.
Comme les humains doivent être dans l'enclos.
Exactement. Donc, lorsqu'ils dépassent et qu'on ne peut plus garder le contrôle, ben, on est effrayé. Donc, voilà la réticence qu'on peut avoir avec les animaux sauvages.
Le chaos.
On fait l'apologie d'un retour à la nature et au moment même où est-ce qu'on prétend vouloir être en contact avec l'environnement, on n'arrive même plus à supporter les animaux qui ne correspondent pas au cadre dans lequel on veut qu'ils évoluent.
Exact.
C'est tous des phénomènes. Finalement, les grands enjeux, ben, peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond qui se trouve derrière. Peut-être que ça pourra finalement nourrir notre réflexion. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou notes sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au www.libre-media.com sur X, TikTok. Et si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Alors, Jérôme, bon week-end à toi.
Merci. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi en passant pour nous aider à produire plus de contenu.
À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.